C'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, avec un nouvel épisode de nos émissions au cœur du parc d'Armorique et ses actualités autour des paysages.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, une quotidienne qui vous promène dans le Finistère. Une fois par trimestre, en tout cas, on parcourt le territoire qui correspond presque parfaitement à la zone d'émission de notre radio. En plus, il siège juste en face de la radio, j'ai nommé le Parc Naturel Régional d'Armorique. Alors, quand on a lancé ce cycle d'émissions, on avait dans l'idée de vous faire entendre notamment les scientifiques qui accompagnent le parc. Oui, car un parc naturel est doté d'un conseil scientifique pour éclairer les décisions des élus du parc. Le conseil scientifique du PNRA est composé de 10 femmes et hommes. Il est présidé par une adhérente de la radio, l'anthropologue Alix Levin. Elle participe à cette semaine qui s'annonce et à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Mais c'est en compagnie de la vice-présidente qu'on est aujourd'hui, la géographe Laurence Ledublaillot, qui elle est rattachée à l'université de Rennes 2, donc elle est à distance. Sa spécialité, c'est le paysage et c'est le sujet de cette émission, encore et oui, avec plusieurs rendez-vous proposés par le parc d'Armorique ces prochains jours. Bonjour Laurence Ledublaillot.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste de la connaissance du paysage en tant que chercheuse en géographie, mais quels sont les autres acteurs du paysage, en particulier dans un parc régional ?
Alors effectivement, le paysage, c'est un sujet qui mobilise beaucoup de partenaires et qui intéresse tout le monde, à commencer bien sûr par les habitants et notamment dans des secteurs comme le PNRA ou les paysages sont mobilisateurs, hein, pour toute la population. Donc, les acteurs sont les collectivités territoriales, bien entendu, à toutes les échelles, hein, puisque ce sont elles notamment qui vont piloter beaucoup d'outils d'aménagement, à commencer par les PLU, les PLUI, les SCOT à l'échelle de la région.
Plan local d'urbanisme.
Voilà, les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou les schémas de cohérence territoriale qui donne beaucoup d'éléments évidemment majeurs, hein, pour l'aménagement du territoire, les services de l'État, notamment la DREAL, ou d'autres instances. Je pense par exemple à l'Office français de la biodiversité aussi, qui va être en gestion par exemple des parcs naturels ou de beaucoup de politiques publiques. On travaille beaucoup aussi en partenariat avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui est une instance aussi transversale, qui travaille avec tous ces acteurs-là et dont on pourra reparler tout à l'heure, puisque c'est notamment l'OEB qui pilote les événements de la semaine prochaine.
Et oui, bah justement, alors la précédente émission qu'on avait réalisée avec Lise Vauvert, qui est chargée de mission paysage du parc d'Armorique, c'était le 10 mars, et on avait mentionné l'enquête qui a été menée à l'échelle régionale par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui s'appelle Bien-être et paysage. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principaux résultats ?
Alors, c'est un travail qui a été initié en 2016, en fait, hein, avec des premières réflexions autour de la question des indicateurs du paysage et de la manière dont on pouvait rendre compte des paysages, ce qui n'est pas évident parce que le paysage, c'est évidemment à la fois les aspects matériels, ce que les objets, les perspectives, dont on peut rendre compte par des schémas, des dessins, des photos, etc., de manière assez objectivée, mais c'est aussi le ressenti, ce que l'on en perçoit, les représentations sociales que l'on a, et c'est ce qui fait les paysages, et c'est ce qui fait la spécificité des paysages. Le paysage, la définition en a été donnée par la Convention européenne du paysage en 2000, c'est partie de territoires tels que perçus par les populations. Donc, c'est bien dans cet entre-deux, partie de territoire et la perception par les populations que se situe cette notion-là. Et donc, pour en rendre compte, ça veut dire qu'il faut à la fois donner des éléments factuels, mais aussi comprendre ce que, justement, cette perception par les populations. Et c'est là, évidemment, que c'est compliqué. Donc, on travaille sur les représentations sociales, les œuvres d'art, ce qui circule dans toute la littérature, le cinéma, Internet, etc. Et puis, donc, on a commencé à travailler avec l'OEB et puis tous les partenaires donc qui sont investis là-dedans, hein, donc les parcs naturels, mais aussi les CAUE, par exemple, hein, qui sont aussi très mobilisés sur ce sujet.
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.
Conseil d'architecture, urbanisme et environnement, qui dépendent des conseils départementaux. Et donc, on a monté tout un protocole d'enquête qui a été fait notamment en ligne.
C'était en 2024.
Voilà. Donc, il y a eu près de 3000 réponses et plus de 2000 réponses qui ont été vraiment utilisables, c'est-à-dire où les gens avaient été jusqu'au bout du questionnaire. Et puis, il y a eu aussi une centaine d'entretiens. Il y a eu voilà, des stages, des ateliers, des partenariats avec différents masters des universités en Bretagne. Et tout ce travail a été analysé par Caroline Quiltet à l'OEB pour produire notamment un fascicule qui est disponible en ligne, hein, qui fait 64 pages et qui reprend par des graphiques et des schémas qui sont assez faciles à analyser tous les résultats de cette enquête. Donc, voilà, qu'est-ce que les différentes catégories, les citoyens, les élus, les professionnels du paysage, hein, à chaque fois, il y a un peu les trois grandes catégories, retranscrivent de ce paysage dans les déplacements, par exemple, les déplacements de loisirs, les déplacements professionnels, dans les espaces de travail, dans les paysages voilà, qu'ils fréquentent par le travail, les paysages qui… d'habitat, hein, de lieux. Alors, il y a eu des réponses à peu près bien réparties sur tout le territoire breton, donc ça peut donner vraiment une image assez fidèle de ce que les habitants attendent et de ce qu'ils en ressentent.
Et dans l'ensemble, ils se sentaient bien, les gens, dans leur paysage quotidien.
Alors, oui, globalement, les résultats, c'est que effectivement, les quelques grandes statistiques, hein, c'est 39% des Bretons considèrent comme agréable leur paysage et donc considèrent être dans un environnement de qualité. Et 44% profond aussi des propositions pour rendre cet environnement meilleur. Et puis, dans les éléments qui ressortent, on a des éléments très importants, par exemple, sur le bocage, sur l'intérêt porté au bocage, sur la végétalisation en ville. Donc, on voit que dans les politiques publiques, il y a vraiment des points qui sont sensibles et c'est intéressant pour notamment éclairer les politiques publiques puisque au final c'est quand même ça qui intéresse dans cette enquête. Pour vous donner quelques chiffres, hein, par exemple, 75% des Bretons sont mobilisés sur la question, parmi les propositions qui leur étaient faites de réponse, hein, sur aménager des espaces de convivialité.
Et alors justement, à propos de…
La question aussi, par exemple, juste un petit détail, hein, mais c'est intéressant, sur 26% répondent sur limiter la pollution lumineuse la nuit.
Oui, intéressant, car on voit qu'il y a un petit mouvement de retour vers les lumières la nuit là, en ce moment. Et alors justement, à propos de bien-être et paysage, puisque c'était le titre de l'enquête, mais le parc d'Armorique propose une programmation donc, qui s'appelle « Pièces de paysages au pluriel. Dès jeudi, il y aura un rendez-vous à 16h à Crozon pour une lecture de paysages justement avec Lise Vauvert et l'observatoire photographique qu'elle anime. Et le jeudi suivant, le 28 mai, donc vous, Laurence Ledu et Alix Levin, vous allez expliquer, vous ne serez pas toute seule, mais vous allez expliquer pourquoi les paysages sont bons pour la santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors c'est vrai qu'on ne relie pas forcément spontanément le paysage à la santé. On aura plutôt tendance, j'allais dire, historiquement, à le relier aux beaux-arts ou vraiment à un aspect strictement visuel et esthétique. Or, notamment dans les textes de loi, mais aussi dans les pratiques, le paysage est vraiment relié à la notion de cadre de vie. Et cette notion de cadre de vie, elle est elle-même très importante pour la santé. Ça, c'est aussi inscrit dans les politiques publiques depuis pas mal d'années. Ce qu'on entend par santé, c'est à la fois la santé physique, c'est-à-dire un cadre de vie, et notamment du point de vue de la qualité de l'environnement, qualité de l'eau, de l'air, etc., donc qui permettent une bonne santé et des activités physiques qui nous permettent aussi de maintenir cette bonne santé. Une santé psychologique, mentale, ça c'est important aussi, justement sur toutes les questions qui sont très importantes, hein, du rapport à la nature, et puis aussi sur le volet sociologique, c'est-à-dire que le paysage permet aussi une sociabilité locale, et donc ça concourt aussi à un équilibre de la santé. Donc c'est vraiment tous les volets de la santé qui sont mobilisés par via le paysage.
Il y a plein d'études scientifiques qui existent de toute façon là-dessus. Hein. Oui, on ne parle pas dans le vide.
Ça a été travaillé notamment dans le. Je vous parlais tout à l'heure du Conseil de l'Europe, hein, avec la définition du paysage. Le Conseil de l'Europe a notamment produit en octobre 2024 un rapport sur paysage et santé, qui a été fait notamment par le collègue suisse Gilles Rudaz et qui est disponible en ligne sur le site du Conseil de l'Europe et qui développe tous ces éléments-là. Et ça, c'est vraiment inscrit dans les politiques publiques autour du paysage, et y compris dans ce qui a été défini dans la loi biodiversité de 2016. Qui a un titre sur le paysage et qui définit des objectifs de qualité paysagère. Et ces objectifs paysagères passent par la question de la santé. Alors, cette question le lien entre paysage et santé, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le 19e, hein, quand on commençait à faire des cures, à aller en montagne, à aller à la mer, les sanatoriums, la thalassothérapie. Tout ça, c'est vraiment... jouer sur un certain rapport à un certain type de paysage pour se soigner, et toujours à la fois physiquement et mentalement, les deux sont très liés.
Et d'ailleurs, les premiers mouvements, je crois, de défense du paysage en tant que tel, en tout cas, c'était souvent des artistes. Et alors, à ce sujet, comme vous avez réalisé avec l'Université de Rennes 2 une série sur vidéo sur le paysage, on va écouter une de vos collègues, qui est géographe aussi, hein, qui s'appelle Anne-Cécile Oyer, qui parle de justement l'aspect artistique et inspirant des paysages.
Dans leur ouvrage « The Experience of Nature, a Psychological Perspective », en 1989, Rachel et Stephen Kaplan ont explicité les critères qui rendent un paysage inspirant, stimulant et propre à nous faire rêver. Tout d'abord, il doit être éloigné, soit physiquement, soit conceptuellement, de l'environnement quotidien du cadre de vie. Il doit être fascinant, donc apte à capter l'attention sans effort. Il doit être vaste, ou du moins suffisamment étendu, pour déployer un engagement physique. Et enfin, il doit être compatible avec les inclinaisons de l'individu.
On voit un peu d'ailleurs une évolution, parce que là, nous, on est plus sur les paysages du quotidien, justement, qui peuvent être exotiques, même s'ils sont au quotidien. Mais c'est vrai que là, c'est un peu différent de la conception qu'on avait à l'époque du paysage, du grand paysage, je suppose.
Les paysages remarquables, c'est très caractéristique, hein, de la fin du 19e et puis de toutes les politiques publiques, les premiers les sites classés, que ce soit les monuments naturels ou les monuments historiques, loi 1930, c'est très caractéristique et c'est vraiment dans les années, on peut dire les années 93, notamment avec autour de la loi paysage, qu'on a basculé vers les paysages du quotidien ou les paysages entre guillemets ordinaires, mais qui sont mal nommés parce que pour les habitants, c'est pas des paysages ordinaires, c'est des paysages très importants. Et toutes les politiques publiques et donc les recherches s'orientent vraiment maintenant vers ces paysages-là. Ouais.
Et puis le tourisme a peut-être joué un rôle d'ailleurs aussi, parce que je pensais aux entrées de ville. Enfin, tout à coup, on s'est préoccupé des entrées de ville, de l'image qu'on donnait. Enfin, je ne sais pas, c'est une question qui me vient comme ça. Mais...
Oui. Il y a aussi l'attractivité territoriale de manière plus générale hein, pour les collectivités territoriales. Et puis pour revenir au petit extrait là, que vous avez cité des vidéos, juste pour signaler que donc, c'est dans le cadre d'un travail qui avait été mené en partenariat avec la ville de Dinan, la ville de Lanvalet, enfin les deux communes Dinan-Lanvalet et puis l'université de Rennes 2. Et dans le cadre du Covid, il y a eu 10 capsules vidéo autour de paysages et santé et qui sont aussi disponibles en ligne. Si vous tapez paysages et santé, capsules vidéo, on peut trouver ces capsules vidéo. Et ça avait été fait au moment du Covid, puisque effectivement, pendant le confinement, là, il est apparu très clairement que ce rapport au paysage, et notamment au paysage directement accessible, au cadre de vie de notre quotidien, était extrêmement important pour notre santé. Et on a très clairement vu là la différence entre des personnes qui étaient confinées dans des espaces privés réduits, avaient peu d'accès à des parcs ou à un environnement à moins d'un kilomètre, hein, puisque c'était ça, de qualité, et au contraire, des gens qui avaient accès à des parcs, qui avaient aussi, c'est quelque chose qui est développé maintenant dans l'urbanisme, le rapport à l'arbre, par exemple, en ville. Est-ce que l'on peut voir des arbres de chez soi? Est-ce que l'on a accès à des arbres à moins de 300 mètres? Est-ce qu'on a accès à des parcs, à des surfaces importantes boisées ou du moins d'espaces verts? Et ce sont des critères d'aménagement qui sont maintenant très importants dans les politiques publiques.
Ouais, l'élément végétal, quoi, ça devient vraiment un élément primordial, quoi, parce que c'est vrai qu'on pourrait pas parler de paysage urbain sans aucun végétal, après tout, ça existe
oui.
aussi.
Et l'accès à la nature, et qui apparaît par cette notion de paysage et de santé, et puis qui est renforcée aussi par l'adaptation au changement climatique et la question des îlots de fraîcheur. Donc oui. Les deux sont aussi liés, et les deux relient aussi paysage et santé.
Et nous, un sujet qui nous touche en radio et qui avait surgi aussi pendant le confinement, si j'ai bonne mémoire, c'était l'aspect sonore du paysage. Tout à coup, les gens entendaient les oiseaux. Et ça, c'est quelque chose qui est abordé aussi dans les textes, les lois, tout ce qui concerne le paysage.
Oui, tout à fait. Déjà, dans la définition du paysage, c'est bien tel que perçu par les populations, donc perçu par tous les sens. Donc, le paysage visuel, sonore, olfactif... On parle aussi de paysage à manger, de paysage à toucher. Enfin, tous ces éléments-là sont développés et ça donne lieu d'ailleurs à tout un tas de choses. Par exemple, quand on travaille avec les enfants dans les écoles, ce que fait le PNRA, hein, qui a lancé tout un travail là, avec différentes écoles et en partenariat d'ailleurs avec le conseil scientifique du PNRA, hein, puisqu'on a plusieurs collègues qui interviennent aussi auprès des écoles pour travailler ces sujets-là. Et donc, le paysage sonore en particulier, on sait qu'il est très important, que c'est aussi un paysage qui marque, que l'on garde en mémoire. Ce sont des sujets qui ont été travaillés, je pense notamment à la collègue Claire Guillou, qui avait donc fait un ouvrage sur ce qu'on appelle les soundscapes, qui est paru aux presses universitaires en 2015, si j'ai bonne mémoire, qui aborde notamment la question des paysages sonores, pas seulement par la question des nuisances sonores, ce qui est aussi une entrée, hein, comment voilà, se cadrer un petit peu les nuisances sonores des, des voies routières, des aéroports, etc. Mais également par le côté positif et aussi par le côté de l'identité de ces paysages sonores. Beaucoup de villes, Paris, Barcelone, Nantes, etc., ont travaillé sur leurs paysages sonores, des enregistrements de ces paysages sonores, l'identité d'une place de marché, de différents quartiers.
La fameuse cloche aussi. la fameuse cloche du village aussi.
Voilà, c'est l'historien Alain Corbin, notamment, qui avait beaucoup travaillé sur ces identités sonores. Et je pense aussi, par exemple, au Centre du son à Cavan, qui travaille aussi sur ces paysages sonores, sur le rapport entre la musique, les sons, les sons de la nature, enfin tout ce travail-là. Et donc, dans le Centre du son, notamment toute la vallée qu'ils ont aménagée, il y a toute une déambulation qui permet de sensibiliser aux différents sons, en fait.
Alors, il y a un aspect aussi, il y a un troisième rendez-vous qui est proposé par le Parc d'Armorique dans le cadre de cette programmation pièce de paysage. Alors, cette fois, c'est carrément une pièce de théâtre participatif. Ça s'appelle Se souvenir des loups. Ce sera le vendredi 29 mai. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, tout à fait, avec plaisir, puisque ça approche. Alors, j'invite tous vos auditeurs à aller chercher l'ensemble du programme hein, sur pièce de paysage ou Se souvenir des loups. Puis peut-être vous le mettrez en ligne également. Et donc, cette pièce de paysage, elle a été montée, donc c'est encore un pilotage de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, en partenariat avec le collectif La Cavale, et qui reprend donc tous les éléments de l'enquête dont on parlait tout à l'heure, bien-être et paysage en Bretagne, et qui travaille sur un remaniement et une mise en œuvre et un complément apporté en lien avec des habitants. Donc, dans le Finistère, ça a été monté à Crozon avec 8 habitantes qui ont monté donc avec la Cavale une pièce de paysage. Donc, il y a encore toute une semaine de résidence à Crozon la semaine prochaine là-dessus. Et cette pièce sera donc présentée vendredi 29. Il y a 3 autres pièces qui ont été montées en parallèle dans les 3 autres départements bretons et il y aura une pièce de synthèse qui sera présentée à Rennes le 26 juin. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ces 3 mises en œuvre. Moi, j'ai été la semaine dernière voir la pièce à Lamballe, la représentation qui a été faite à Lamballe. Là, c'était avec des adolescents d'un lycée. C'était vraiment très, très instructif. Et puis donc la veille, le jeudi, on va revenir sur la table ronde avec Alix Levin et puis Caroline Guittet sur ces enchevêtrements hein, entre les habitants, les paysages et puis les mises en scène.
Oui, donc le 28 mai, c'est la table ronde, c'est à 20h, c'est au cinéma Le Rex de Crozon. Il y aura aussi l'association Les Lolos à l'eau, c'est ça qui participera. Et le 29 mai, la pièce de théâtre, c'est à 20h30 et c'est à l'Améthyste à Crozon, je suppose.
Oui. Ouais. Oui, c'est ça, c'est au centre culturel.
Et alors, il nous reste juste quelques minutes, 2-3 minutes, pour parler du travail du comité scientifique du parc d'Armorique sur les paysages sous-marins aussi.
Tout à fait. Alors, ça, c'est encore un autre volet des paysages qui est de plus en plus développé là aussi par différents acteurs. Le PNRA notamment a l'année dernière porté un concours photo que certains ont peut-être eu l'occasion de voir, qui a été présenté notamment à Ménesmeur et puis qui a tourné dans différentes communes, je pense, et qui a permis de faire voir et de partager les paysages et la diversité des paysages sous-marins de la rade de Prest. Ça faisait suite notamment à un autre concours photo qui avait été fait par le parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Ces travaux font suite à vraiment toute une réflexion qui est portée sur les paysages sous-marins en Bretagne. Le parc naturel marin d'Iroise, notamment, travaillent aussi ce sujet-là, puisque c'est aussi quelque chose de très important pour eux de montrer la diversité de ces paysages sous-marins et que ce sont des ensembles importants aussi à faire connaître et à protéger. Il y aura une thèse la thèse de Gaëtan Joly qui va être soutenue à Rennes le vendredi 5 juin sur justement la diversité de ces paysages sous-marins et comment on peut mettre en place des politiques publiques sur ce sujet-là. Et puis il y a une autre thèse qui sera soutenue à l'UBO à Brest par Lola Guillon aussi sur les paysages sous-marins en lien et la manière de les représenter et de les partager dans des expositions ou autres. Donc c'est vraiment un sujet important et pour les Bretons, c'est vrai que les paysages sous-marins, c'est quelque chose auquel on est sensible et qui va au-delà en fait des paysages terrestres. Donc c'est quelque chose qui est important à travailler.
Ça peut être les herbiers de Zostère, par exemple, etc. Merci beaucoup, Laurence Leduc-Blaillot. On suivra tout ça, hein, bien sûr, sur son histoire, parce qu'on aime ce sujet. Et en attendant, rendez-vous sur le site internet du Parc Naturel Régional d'Armorique pour le détail de ce programme Pièces de paysage ces prochains jours. Merci, au revoir.
Merci.
Et cette émission est bien sûr à réécouter sur le site internet de Transistor, comme toutes celles qu'on a réalisées et qu'on réalisera encore avec le Parc Naturel Régional.